il part en Égypte et il rencontre Pharaon et il lui dit, il faut que mon peuple sorte d'Égypte et aille adorer dans le désert. J'ai vu Dieu et il y a un lieu, le Sinaï, qui est sacré et on va aller adorer là-bas. Ah oui. Eh ben vous n'allez pas adorer là-bas. Si, 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 si. Il pose son bâton par terre et le bâton devient un serpent. Là, Pharaon dit, oula. Il appelle les sorciers, les mages égyptiens, ils posent leurs bâtons par terre et les bâtons deviennent des serpents. Car l'Égypte est en pleine sorcellerie. Tous les dieux égyptiens, Osiris, Isis, tout ça sont des démons. Et ils font, alors ils font pas de sacrifice humain, quoique, hein, tous les serviteurs de Pharaon, ils sont enterrés vivants à chaque mort, hein. On vous dit pas que quand on a trouvé des cadavres, tous ceux qui, hein, il y en a un qui mourait, on mettait tous les serviteurs pour le servir après la mort, hein. Donc vous aviez 50 morts, tout ça c'est des sacrifices humains déguisés quand même, hein. Bon. Et là, le serpent de Moïse mange les serpents des sorciers, les avale. Et là, les sorciers égyptiens sont très impressionnés. Pharaon est très impressionné, il dit « Ah fou, pars de ma vue !» Il revient et lui dit « il va y avoir des fléaux. » Comment ça, des fléaux? Dieu va te punir parce que tu m'empêches de partir pour adorer avec mon peuple. Vous allez avoir des grenouilles. Vous allez avoir l'eau changée en sang. L'eau devient rouge, imbuvable. Le Nil rouge. Les mouches. La grêle. Les sauterelles. De la foudre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vous avez un ulcère malin sur eux. Ça commence à faire. Hein, la grêle a été terrible, les sauterelles ont été terribles, plus aucune récolte, des bêtes mortes. La foudre a tué beaucoup de bêtes. Et il dit toujours non. Alors Moïse arrive et il dit voilà, ben, la dernière idée de Dieu est un peu là, elle est costaud celle-là. Tous les mâles aînés vont mourir cette nuit. Tu as fait mourir les bébés juifs, les bébés hébreux depuis plusieurs années. Dieu te punit par là même. Et là, Pharaon dit ah bon, ben on verra bien. Moïse va vers le peuple, réunit tous les patriarches et leur dit ce soir, vous prenez un agneau d'un an, blanc, mâle, vous l'offrez à Dieu, vous le faites cuire et vous le mangez. Vous serez habillés parce que vous partirez cette nuit. Nous quitterons l'Égypte. Organisez remplissez vos charrettes, on part au désert, mettez tous vos biens, organisez les troupeaux, nous partons ce soir. Et le repas avant de partir, ça sera l'agneau. Vous me prendrez des herbes amères et vous mangerez debout, habillé, avec le bâton de voyage. Ils prennent des agneaux, ils les sacrifient. Vous mettrez le sang de l'agneau sur vos portes. Ils prennent le sang de l'agneau, ils le mettent sur le linteau de leurs portes. Et ils mangent. Et là, Dieu fait passer l'ange exterminateur. Donc c'est un ange qui va tuer tous les premiers-nés. Donc, enfants. Un bébé de Pharaon, le premier-né, meurt dans la nuit. Tous les bébés meurent. Des animaux aussi. Et une immense clameur en Égypte, de tristesse et de deuil, parce que plein d'enfants, de plein de petits garçons sont morts. Et là, les Hébreux mangent. et sont eux, rien ne se passe pour eux. Le passage de l'ange exterminateur, c'est, en hébreu, ça se dit Pâk. Le passage. Et eux vont faire aussi une Pâk, c'est-à-dire qu'ils vont partir, ils vont passer de l'Égypte vers la Terre Sainte. Mais cet agneau d'un an, retenez-le dans votre foi chrétienne. Donc il part. Et il avance. À imaginer les vieillards sur les chariots. Et Dieu leur a dit, demandez aux Égyptiens leurs bijoux et leur argent avant de partir, pour expier l'esclavage qu'ils ont fait contre vous. Et les Égyptiens leur donnent, foutez le camp, partez, vous êtes maudits, vous êtes des fous, vous avez des démons, votre Dieu est une horreur et tout, il est plus puissant que nos dieux, partez. Et ils partent. Et là, à un moment donné, Pharaon se dit, eh ben, je vais les tuer, emmenez l'armée. Et ils partent à plus de 600 chars pour poursuivre les Hébreux, qui marchent, qui arrivent à un bras de mer, la mer Rouge, hein, qui est la mer qui rentre jusque dans le Sinaï. Et à ce moment-là, vous avez une colonne de feu qui guide les Hébreux la nuit et une tornade de nuages le jour. C'est hallucinant, hein, mais demandez aux Juifs dans la rue s'ils y croient. Et il les conduit vers la mer au lieu de contourner la mer. Et là, les Hébreux disent à Moïse, mais ton Dieu, il est fou, on va mourir, les Égyptiens sont derrière nous, c'est une impasse, c'est horrible, on va tous mourir. La colonne se déplace et va à l'arrière des Hébreux et arrête l'armée égyptienne. Là, Moïse ouvre les bras et la mer s'ouvre devant lui. Et vous avez un vent terrible qui dessèche le fond de la mer. Et les Hébreux passent à pied sec ce bras de mer. Vous voyez, vous avez un exégète moderne qui passe près d'une église charismatique. Ils sont là, Dieu a fait des merveilles, il a fait passer son peuple par la mer Rouge. C'est merveilleux. Il entre et dit, mais vous rendez compte comment c'est ridicule, hein? Ils sont passés à guet, hein. Il y avait 20 cm d'eau. 20 cm d'eau avec les chariots, avec le bétail, ils ne seraient pas passés en quelques heures, hein. À mon avis, ils seraient bien restés là-dedans, hein. Il s'en va. Le lendemain, il passe près de l'église charismatique. Ah, Seigneur, c'est merveilleux, tu as fait des merveilles. Il vient, il dit, quelle merveille! Il a noyé l'armée égyptienne dans 20 cm d'eau. Ah oui. Je vous dis la tradition biblique, hein. Donc il passe, et quand tout le monde est passé, Moïse baisse les bras et la mer revient. Et les Égyptiens ont foncé avec l'eau de chaque côté pour poursuivre les Hébreux. Et au moment où Moïse baisse les bras, ils sont submergés. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'actuellement, dans la mer Rouge, on a découvert, il y a peu de temps, des chariots égyptiens. Par radar...
Ultrason,
et on va essayer de les excaver. Si on trouve des chariots égyptiens en pleine mer Rouge, sous l'eau, ça va faire du bruit, ça. On n'a pas besoin de ça pour croire, mais bon. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le peuple hébreu, il y a un symbole. Ils sont passés par la mort. Ils ont quitté la sorcellerie égyptienne, la superstition égyptienne qui les mettait en danger aussi par leur foi. Et ils sont passés par l'eau. Ils auraient dû être noyés. Ils n'ont pas été noyés. Ils auraient dû mourir comme l'agneau pascal, l'agneau du passage. Et ils ne sont pas morts. Donc il y a quelqu'un qui va mourir à la place. Ils vont tous les ans commémorer ce passage pascal. Tous les ans, ils vont prendre un agneau, toutes les familles vont prendre un agneau et manger l'agneau pascal pour le passage de la mer Rouge. Dans cette nuit où ils ont mangé l'agneau pascal pour la première fois, mis le sang de l'agneau, et c'est l'agneau d'Abraham. C'est la même prophétie. Et ils sont là, dans le désert. Et là, Moïse leur dit, on va en Terre Sainte. Et les Cananéens, c'était des gens un peu costauds, qui avaient des villes fortifiées, des chars avec des lames le long des chars, et c'était des colosses. Et quand vous avez les 12, chacun un d'une tribu, les 12 espions qui partent en Terre Sainte pour voir comment attaquer telle ville ou autre, ils reviennent, ils disent, c'est un pays merveilleux, très abondant, parfaitement irrigué, ils ramènent une immense grappe de raisin, ils ramènent du blé, tout ça. C'est un pays extraordinaire que Dieu va nous donner. Et donc, ils sont contents, mais là, et puis après, il dit, mais leur peuple, ce sont des barbares, des idolâtres, des égorgeurs. Ils ont des armées incroyables, ils ont des cuirasses incroyables, des villes avec des murailles fantastiques. Ils vont tous nous tuer. Et là, le peuple se tourne vers Moïse et dit, tu nous as fait sortir d'Égypte où on mangeait. Bon, on travaillait comme des dingues, mais on avait nos maisons et on mangeait. Et là, on va mourir dans le désert et on va mourir contre les armées cananéennes. Jamais on le fera. On retourne en Égypte. Et là, Moïse dit, oh, ça, c'est pas une bonne idée. Et là, Dieu dit à Moïse, eh bien, c'est très simple. Ils vont tous mourir. Et toi, avec ta femme, je ferai sortir un peuple à nouveau, comme pour Abraham. Là, Moïse, waouh! Vous allez faire tous mourir? Oui, c'est la punition que j'ai décrétée. Non, il faut les laisser vivre. Et puis on dira que vous les avez fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Vous êtes un dieu épouvantable et cruel. Je le pense un peu. Bon, très bien. Mais ils vont tourner pendant 40 ans dans le désert. Et la génération, les adultes qui ont refusé de rentrer en Terre Sainte, mourront tous. Et c'est uniquement la deuxième génération qui entrera en Terre Sainte dans 40 ans. Moïse, c'est juste, c'est bon, ça va. Bon. Et là, il annonce au peuple, nous allons tourner dans le désert pendant 40 ans. Mais vous n'allez pas tous mourir, déjà Dieu vous épargne. Youpi, alléluia, non ? Il dit, nous avons péché, on va attaquer. Donc ils forment une armée avec ce qu'ils ont pu, et ils attaquent une ville cananéenne. Les Cananéens, ils sortent avec leurs chars et tout, ils massacrent 10 000 Hébreux. Ils reviennent, ils disent, on a perdu. Dieu est pas content. Et là, Moïse dit, non, il est vraiment pas content. Si vous recommencez demain, vous mourrez de la même façon. Enfin, il nous avait promis la victoire si on attaquait. Oui, mais vous n'avez pas voulu attaquer au début. Vous avez renoncé. Donc, on va partir pendant 40 ans. Et il part pendant 40 ans. Et vous avez la colonne de nuée, qui signifie la présence divine, qui est là. Moïse va construire un petit coffre en bois, couvert d'or, où il va mettre le bâton d'Aaron, parce qu'à un moment donné, vous avez les tribus qui contestent le frère de Moïse, Aaron, qui devient le grand prêtre, et le bâton d'Aaron fleurit, alors que c'est un bâton. Il le met dans ce coffre, l'arche d'alliance. Tous les matins, il récolte une gelée qui les nourrit, qu'on appelle la manne, parce qu'il n'y a rien à manger dans le désert. Et il mange cette gelée tous les matins. Il y a un pot de manne qu'il met dans l'arche d'alliance. Et au mont Sinaï, quand ils arrivent, Dieu leur dit, maintenant vous suivrez mes commandements. Et sur le haut de la montagne, c'était avant l'épreuve de le refus d'entrer en Terre Sainte. Sur le haut de la montagne, vous avez un orage de feu. Et Moïse va entrer dans ce nuage de feu, sur le mont Sinaï, là où il avait trouvé le buisson ardent. Et il va rester 40 jours sans manger ni boire. Et quand il va redescendre avec les 10 commandements gravés sur deux stèles de pierre, le peuple avait dit, bon, il est mort en haut. Et Aaron avait fait, avec l'or qu'ils avaient récupéré des Égyptiens, un veau en or. Le veau d'or est toujours debout. Eh bien, ce veau d'or, c'était le dieu Apis. Et Aaron a dit, c'est le dieu Apis qui est avec nous, voilà. Et quand Moïse était revenu, il avait fait fracasser la statue, et la tribu de Lévi avait dit, faut-il punir ceux qui ont adoré le veau d'or? Tuez-les, 30 000 morts. Ils ont sorti leur glaive et ils sont passés dans le camp, et tous ceux qui avaient adoré le veau d'or ont été tués par la tribu de Lévi. Ils tournent pendant 40 ans. Et au bout de 40 ans, ils entrent en Terre Sainte. Ils passent par le Jourdain. Et le Jourdain est un fleuve. Et ils ont eu des enfants quand même. Ils sont toujours environ 2 millions. Et du coup, le Jourdain s'arrête et ils passent. Parce que Moïse est mort, Josué lève les mains et le fleuve s'arrête. Et c'est décrit, c'est-à-dire l'eau part en aval, et s'arrête. Et il passe avec une muraille d'eau. Le sol est desséché et il passe. Ensuite, la première ville qu'il trouve, c'est Jéricho. Mais là, Dieu leur dit, je vous ferai gagner vos batailles par miracle. Donc ils sont là, ils sont un peu peur parce que l'armée de Jéricho sont des durs de durs. Ils n'arrivent pas, ils sont cernés, il y a un siège. Et là, avec le coffre d'alliance, l'arche d'alliance, où il y a les 10 commandements, le bâton d'Aaron et un pot de manne, la nourriture qu'ils avaient dans le désert, ils tournent 7 fois autour, et la 7e fois, les trompettes de Jéricho, ça vous dit quelque chose? Et les murailles s'effondrent. Là, ils sont... Waouh! Imaginez les murailles de toute une ville qui s'effondrent, tout en même temps. Et là, ils attaquent. Et ils les tuent tous. Et ils prennent une ville, puis une ville, puis une ville, puis une ville. Et tous les ans, ils sacrifient l'agneau pascal. Ils prennent un roi, le roi David, qui est de la tribu de Benjamin, dont la capitale est Jérusalem, comme par hasard. David dit, on va faire un temple pour l'arche d'alliance. Dieu lui accorde. Mais il n'y aura qu'un seul lieu de culte pour tout le peuple hébreu, sur toute la Terre Sainte. Il tue les Cananéens, ou les Cananéens se soumettent, et les Philistins seront les seuls à résister. Ils ont toute la Terre Sainte actuelle, toute la Palestine actuelle. Et ils ont tué tout le monde, ou ils ont soumis tout le monde. Donc si vous voulez, les peuples actuels disent « Oui, les Hébreux ont pris de 1200 environ à l'an zéro. Pendant 1000 ans, ils ont été les propriétaires de cette terre, mais nous, on la reprend. » Ils sont là, sur cette terre. Le roi David est choisi. Prophétie à nouveau, « De toi viendra le Sauveur. » Vous me direz, c'est un peuple assez dur, hein, mais bon, il est monothéiste. Il ne fait pas de sacrifice humain, mais il fait la guerre. Et Dieu leur dit, voilà pourquoi je vous ai fait tuer les Cananéens et leur ai donné leur ville. Parce qu'ils faisaient sacrifice humain sur sacrifice humain. Ils abreuvaient cette terre du sang de leur bébé. Et vous êtes ma punition pour ce peuple, pour ces peuples. Voilà. Sachez-le, parce que on vous dira que l'histoire sainte est extrêmement cruelle. Oui, mais la cause de l'invasion et de la conquête du peuple hébreu sur le pays de Canaan et sur la terre sainte, c'est les sacrifices humains de ces peuples-là. Ils s'installent. Et le roi David est choisi. Les prophètes disent, nous allons avoir un sauveur. Nous allons avoir un sauveur. Jérémie, Isaïe, Daniel. Nous allons avoir un sauveur. Nous allons avoir un sauveur. Et puis voilà qu'ils sont envahis par les Égyptiens, par les Grecs, avant les Babyloniens, les Mèdes et les Perses. Ils se disent, Dieu, il est bien gentil, mais on n'arrête pas d'avoir des... Et tout ça, les Romains arrivent, et c'est fini. Plus jamais, ils ne peuvent se révolter, ils sont écrasés par la mer romaine. Ils s'étaient révoltés contre les Égyptiens grecs, parce que les Grecs avaient envahi l'Égypte. Et voilà, ils sont tout tristes. Oh, il y a la prophétie de Daniel qui dit que dans 490 ans viendra le Sauveur, l'envoyé, le Messie. 490 ans après la mort de Daniel, vous avez les prêtres qui s'en souviennent, qui disent « le Messie arrive, le Messie arrive ». En plus, on est occupé par les Romains. Il va nous sauver. Ça sera le roi des rois, ça sera le dominateur, ça sera le tout-puissant. Enfin, pas le tout-puissant, ça sera l'envoyé de Dieu. Et donc, c'est les temps messianiques. Vous avez trois rois de petites cités qui étudient l'histoire, la botanique, l'astronomie et les religions. Et ils ont lu les textes mosaïques. Ils ont lu les prophéties des prophètes juifs. La juif, là, ça vient de la tribu de Juda, la tribu de David. Pardon, c'est pas Benjamin, c'est Juda, la tribu de David. Et Juda donne juif. Et il croit que ce petit peuple va donner le sauveur du monde. Parce qu'en fait, quand ils lisent, ils voient que Dieu a été très sévère, mais qu'il fait plein de promesses de pardon, de bonté, de bienveillance, et qu'il leur, avec les 10 commandements, il leur interdit de voler, de mentir, de tuer l'innocent. Il y a la peine de mort, tout ça, mais des coupables, des assassins ou autres. Et là, ils partent. Ils mettront 2 ans, semble-t-il, à arriver à Jérusalem. Parce que une étoile leur indique le chemin vers ce sauveur. Quand ils arrivent à Jérusalem, vous avez une jeune femme juive de la tribu de Juda, mais qui vit dans le nord, à Nazareth, qui a vu l'archange Gabriel et qui lui dit « Le sauveur est arrivé ». Tu en seras la mère. Et elle s'est vouée au service de Dieu. Et avec son mari Joseph, s'était consacrée à la prière. Ce qui est extrêmement rare à l'époque, il fallait se marier et avoir des enfants. Et Marie dit à l'ange, je ne connais pas d'homme. Et le mot veut dire, je n'aurai pas de relation avec un homme. Comment ça va se faire d'avoir des enfants? Je me suis consacrée à Dieu. Et Gabriel lui dit, ne t'inquiète pas, l'enfant viendra sans relation sexuelle. Tu auras l'Esprit de Dieu qui te couvrira et tu enfanteras. Vierge. Alors la Vierge Marie dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Et elle devient enceinte. Et Joseph voit sa femme enceinte, alors que tous les deux se donnaient la prière. C'était une moniale et un moine qui se sont unis. Et là, il se dit, mais cette femme si honnête, si c'est pas possible. Et en secret, il dit, je vais répudier ma femme. Parce que c'est un scandale si elle a un nom. Pour moi, c'est un scandale. Les gens vont penser qu'elle est née de mes œuvres. Mais moi, je sais que c'est pas moi. Je ne pourrais pas le supporter. mais pour pas l'humilier, je vais la renvoyer en secret. Et là, pendant son sommeil, il a un songe, il n'a pas un rêve, un songe. Dieu lui dit, cet enfant, c'est le Messie. Prends-le. Et il se réveille, il va voir son mari, il lui dit son songe, elle lui dit l'apparition de l'ange, et ils attendent la naissance. L'empereur veut prélever les impôts sur ses colonies, et donc ils doivent se faire recenser. Comme ils sont de la tribu de Juda, ils doivent partir à Jérusalem. Comme ils sont de la ville de Bethléem, ils vont à Bethléem, et l'enfant va naître. Et les bergers voient des anges dire « Le Sauveur est né, le Fils de David est né. » Pourquoi ? Le sceptre est sorti de la tribu de Juda. Le roi d'Israël, nommé par les Romains, c'est un Iduméen. Officiellement, le roi du peuple juif n'est pas juif et n'est pas de la tribu de Juda. Et quand les rois mages arrivent et disent « Le roi des Juifs est né », là, Hérode, il convoque les prêtres et lui dit, mais c'est où il doit naître? Ah, il y a une prophétie qui dit que c'est à Bethléem qu'il doit naître. Ah, très bien. Et il dit au roi mage, allez l'adorer, et quand vous l'aurez trouvé, dites-moi où il est. Hein? Le roi des rois, le roi d'Israël, et lui il est roi d'Israël, donc c'est pour le tuer. Les rois sont prévenus par songe et ils partent. Donc, les anges apparaissent aux bergers. Les mages qui ont croit en la religion juive, qui repartent par un songe. Marie et Joseph qui voient, qui entendent les bergers, les rois mages, qui eux-mêmes, elle-même a vu un archange, lui a eu la voix de l'ange dans son sommeil. Et voilà l'enfant, qu'est le Messie attendu depuis des siècles par le peuple juif. Et il grandit et il fait aucun miracle. De 0 à 30 ans à Nazareth. À 12 ans, lors d'un pèlerinage pour la Pâque à Jérusalem, pour l'agneau pascal, il disparaît, il reste dans le temple et ses parents le cherchent pendant 3 jours. Et quand ils le retrouvent, en train de parler avec les prêtres, leur poser des questions, et leur faire les questions-réponses. Et eux, ils sont là, il y a un enfant de 12 ans qui connaît la Sainte Écriture par cœur. Et Marie et Joseph disent, nous étions morts d'inquiétude. Jésus, 12 ans, hein. Pourquoi vous inquiétiez-vous? Ne dois-je pas être aux affaires de mon père? Quand vous aurez votre enfant de 12 ans qui partira dans le supermarché et que vous ne le retrouverez pas pendant une heure, hein, je suis sûr que vous le giflerez. Non, ça se fait plus de nos jours, mais enfin vous allez un peu l'engueuler si vous dit « Pourquoi vous inquiétiez-vous? J'étais au rayon jouet. » Sauf que là, si vous voulez, il dit « Je dois être aux affaires de mon père. » Et de 12 à 30 ans, il ne fera plus rien. Gentil, tout, mignon, il apprend le métier de charpentier, il est au village. Et puis à l'âge de 30 ans, il va voir le prophète Jean-Baptiste qui plongea les gens dans l'eau, selon le signe du peuple hébreu dans la mer Rouge, pour les purifier, pour qu'ils renaissent, qu'ils se noient dans l'eau, qu'ils meurent et qu'ils sortent de l'eau et qu'ils aient une vie nouvelle par le pardon de Dieu, par un baptême. Plongé dans l'eau. Et Jésus arrive. Et il demande à Jean-Baptiste de le baptiser. Et là, Jean-Baptiste, Dieu lui dit, c'est le Messie, c'est le Sauveur, c'est l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste dit, c'est plutôt toi qui devrais me baptiser, je ne peux pas. Et Jésus dit, baptise-moi. Et donc, il prend l'eau et il plonge Jésus dans l'eau du Jourdain. Alors, pourquoi Jésus a voulu être baptisé? Puisqu'il est le Fils de Dieu. Le Verbe fait chair. Et bien parce qu'il est homme. C'est sa nature humaine qui va mourir dans ce baptême, sous l'eau, et qui va ressusciter sous l'eau. Ce signe prophétique, il va l'accomplir sur la croix. Les grands prêtres le détestent, le jalousent. Il est de la tribu de Judas et il dit qu'il est le Fils de Dieu. Il va les détrôner dans leur sacerdoce d'Aaron, le frère de Moïse. Il y a une jalousie. Le peuple est subjugué par ses miracles. Il multiplie les pains, il guérit les malades, il suffit de le toucher, il va guérir des milliers de malades. Il traverse la foule, tous ceux qui sont malades et qui le touchent sont guéris immédiatement. Imaginez le nombre de personnes qui ont été guéries par Jésus. Donc les foules sont folles, ils sont là, ils le touchent et tout. Et quand il est à Jérusalem et qu'on ne le reconnaît pas trop, il va guérir un aveugle, il va y machin, enfin les gens ensuite, comment il a guéri un aveugle? Eh bien, le dimanche des rameaux, ils rentrent dans Jérusalem et disent « C'est le Messie, c'est le Sauveur !» Et là, ils voient l'armée romaine et disent « Ah, vous n'avez plus que quelques temps, il va vous écraser, il va vous chasser !» Ils rentrent dans le temple, il fait un petit fouet, il chasse les marchands qui me vendaient les agneaux pour le sacrifice pascal, les bœufs, les tourterelles, les prêtres qui étaient déjà près de leur sous-sous à l'époque faisaient un change. Ils n'acceptaient que de la monnaie hébraïque et pas la monnaie romaine, donc il y avait des changeurs de monnaie. On ne payait les offrandes que en monnaie du temple et il y avait une marge. Entre les sesterces romaines et là Jésus fait ça, les gens disent, détruisez ce temple, le temple qui était construit pour l'arche d'alliance qui avait été caché 500 ans plus tôt par le prophète Jérémie. Donc le saint des saints, le creux du temple était vide. Allez, c'est hors de question, détruisez-le et je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait de son corps. Il le chasse et il quitte Jérusalem. Et les Juifs, il n'a pas pris le pouvoir. Hosanna au plus haut des cieux, au fils de David et tout. Ben, on n'est pas allé à la forteresse Antona, on ne l'a pas pris d'assaut, mais qu'est-ce qui se passe? Et le peuple est profondément déçu. Et il oublie tous les miracles. Une semaine avant, il a ressuscité Lazare. Vous avez des milliers de personnes qui sont venues de Jérusalem à quelques heures à Bethsaïde pour voir Lazare. Il était enterré, il était pourri, 4 jours décomposé, et Jésus fait ouvrir le tombeau et ressuscite Lazare. Lazare était son ami, un homme riche, puisqu'il avait fait creuser dans du rocher une caverne pour son sépulcre. Au Père Lachaise, vous voyez, vous avez les gens qui sont enterrés à plat, et puis vous avez des magnifiques chapelles, c'est les gens plus riches, vous voyez. Et bien là, creuser son tombeau dans de la pierre, il fallait payer les artisans. Il ressuscite Lazare. Et là, c'est extraordinaire. Mais il ne prend pas le pouvoir. Alors, quand le grand prêtre fera arrêter Jésus, eh bien, les peuples ne suivra pas le Christ. Et la veille, le soir de son arrestation, le jeudi, il va faire le repas pascal, normalement, qui était cette année-là le vendredi. Il va anticiper le repas pascal. Ils prennent un agneau d'un an, ils le mangent, et Jésus dit, Saint Jean-Baptiste avait déjà dit 3 ans avant, voici l'agneau de Dieu. Il prend du pain et dit, ceci est mon corps. Il prend du vin et dit, ceci est mon sang, dans la nouvelle alliance. Il est l'agneau de la nuit pascale, de la sortie d'Égypte. C'est lui qui devait mourir pour nous. Mais Dieu, voyez-vous, n'est pas si méchant que ça. Parce que c'est qu'un seul homme, c'est Isaac qui meurt finalement. Et qui le sacrifie? Abraham, le père. Vous savez, en Dieu, il y a un amour éternel. Que l'intelligence divine qui se pense, le Père qui parle, le Père qui aime son Fils, qui ne s'aime pas de manière narcissique, il s'aime parce qu'il est amour, parce qu'il est digne d'être aimé, Dieu, en lui-même. Et l'expression de son être, de sa bonté, c'est son Fils. Et quand Dieu se contemple en lui-même, il contemple son Verbe, il tombe amoureux, non pas de lui-même, mais de sa beauté, de sa bonté, qu'il diffuse. Dieu n'est pas égoïste. Sa puissance et sa bonté, il la transmet aux anges, à la création matérielle, à la fantaisie des fleurs et des insectes et des animaux, et à l'homme. Et donc, sa parole éternelle, je peux vous assurer qu'il l'aime. Et donc, si le Père donne son propre Fils pour mourir à notre place, en ayant été uni à la nature humaine, c'est vraiment qu'il nous aime. Abraham n'aurait pas donné son fils s'il n'avait pas confiance en Dieu. C'était pas seulement de la crainte, il y avait une confiance en Dieu dans Abraham. Eh bien, Jésus va mourir à notre place. Et Jésus dit : Je suis l'agneau de Dieu. Et Saint Jean-Baptiste dit : Il est l'époux. L'époux de qui ? Eh bien, de la nature humaine. Jésus est l'époux de la nature humaine, de l'humanité. Appelé à l'espérance et à la foi, à la vertu, à la bonté, à l'honnêteté, à la justice. Et comment se dit le mot appelé ? Ça se dit ecclésia, église. Ceux qui sont appelés au salut, l'église. Jésus est l'époux de l'humanité et l'église est l'épouse. Dieu aime les hommes. Alors vous allez me dire, mais vous nous avez décrit une histoire sainte, très violente. Oui, mais c'est toute l'histoire de l'humanité, sacrifice humain, cruauté, meurtre. Et les prophètes ont assoupli le peuple hébreu toujours plus vers l'amour, la miséricorde, la bonté, le respect des esclaves, la libération des esclaves. Et pendant des siècles, ce peuple a été adouci, 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 jusqu'à donner Marie ou Joseph. Oui. Eh bien, si vous voulez, toute cette pédagogie divine, c'est nous dire « Je vous aime et je vais mourir à votre place pour vous donner la vie. » Le baptême signifie la mort de Jésus sur la croix. La messe signifie la mort de Jésus. L'hostie solide, le sang liquide, séparé, comme sur la croix. Quand vous assistez à la messe, vous assistez à la mort de Jésus. Et à sa résurrection, pourquoi ? Parce que l'hostie se mange, elle donne la vie, donc elle est vivante. Et Jésus est vraiment vivant dans l'hostie. Et il est sous forme de nourriture, parce qu'il est vie. Et dans les sacrifices d'animaux de l'ancienne loi, de la loi mosaïque, on mangeait, soit on brûlait toute la victime en honneur de Dieu, soit on la tuait, on la faisait cuire et on la mangeait pour s'assimiler l'offrande faite à Dieu, pour être divinisée, pour être unie à Dieu. Et bien tous ces sacrifices d'animaux tombent avec Jésus et il remplace par l'offrande du pain et du vin son corps et son sang. Déjà Abraham, en passant par Salem, avait rencontré Melchisédek, qui était le roi cananéen de Salem, ou peut-être sémite. On ne connaît pas l'origine de Melchisédek. Il était le roi de cette ville, et il était le prêtre de cette ville. Et quelle était la prière de Melchisédek 1000 ans avant Jésus-Christ ? Non, 1700 ans avant Jésus-Christ, il offrait des animaux ? Non. Les offrandes du petit peuple de Salem, c'était du pain et du vin à l'époque. Il offrait du pain et du vin en libation. Melchisédek. Et donc, voilà, mais c'était une prophétie hein, sur 1700 ans à nouveau. Eh bien, je vais m'arrêter là. Et pour vous dire que si vous êtes chrétien et si vous êtes baptisé, vous allez vous devoir vous aimer comme Dieu aime l'humanité, sans jamais se lasser et sans jamais renoncer à nous pardonner dès qu'on demande pardon. Ce qui fait que vous ne pourrez pas divorcer. Parce que vous devez vous aimer comme Dieu nous aime. Au point que, hein, Jésus dit, il n'en était pas comme ça dès le commencement, plus de répudiation, plus de polygamie. Pas ! Les Juifs ne pratiquaient plus la polygamie depuis plusieurs siècles. Mais ils pratiquaient encore la répudiation pas mal. Une femme qui ne cuisinait toujours mal pouvait être répudiée. Motif rabbinique. Hein. Une femme qui avait un œil qui louchait après son mariage pouvait être répudiée. Une femme qui boitait après son mariage pouvait être répudiée. Parce que comme ils n'étaient plus beaucoup polygames, ils répudiaient et ils prenaient une jeune. C'était très dur. Et Jésus dit, c'est à cause de la sclérose de votre cœur. Un cœur en pierre. Alors, là, les apôtres disent, on ne peut plus divorcer, on ne peut plus répudier. Alors là, il vaut mieux pas se marier. Donc, ils ont tout de suite compris hein, ce que voulait dire Jésus. Eh bien, ça veut dire que vous, et nous verrons les prochaines fois, vous allez vous promettre amour, vieillir ensemble, fidélité, unité et ouverture à la vie. Eh bien, si l'un d'entre vous vous trahit, voyez, et couche avec une autre personne, si on ne peut pas prouver que vous n'avez pas promis la fidélité et qu'en fait vous aviez une maîtresse avant le mariage, que vous l'avez gardée pendant le mariage et que vous êtes parti avec après, là le mariage est considéré comme faux. Et les prêtres déclareront ce qu'on appelle nul, mais en fait c'est un faux mariage. Vous n'avez pas donné la fidélité. Mais si votre mari part avec une secrétaire après 20 ans de mariage, parce que vous êtes moins belle et qu'elle elle a 20 ans de moins, eh bien votre mariage ne sera pas nul. C'est lui qui aura été un gros salaud, libidineux. D'accord ? Qui veut voir du nouveau. Et votre mariage ne sera pas nul. Alors qu'est-ce que vous dit l'Église ? S'il revient tout penaud, vous pouvez refuser la reprise de la vie commune à cause de cette trahison. Ben alors, c'est pas très évangélique. Il n'y a pas de pardon ? Si, si. Je pardonne, mais j'oublie pas. Hein. C'est-à-dire que plus de vie commune à cause du dégoût que vous avez de savoir qu'elle a couché avec une personne d'autre ou qu'il a couché avec une personne d'autre. Par contre, l'Église vous demande, mais essayez de surmonter votre dégoût et votre déception et non seulement de pardonner, mais essayez de reprendre la vie commune. Mais l'Église, dans son droit canonique, ne vous oblige pas à reprendre la vie commune. Par contre, là où l'Église vous piège, mais par contre, vous êtes toujours marié. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas reprendre la vie commune, vous êtes toujours tenu à la fidélité, lui aussi, elle aussi, et vous êtes toujours marié. Vous devez vous pardonner. Même si vous ne reprenez pas la vie commune, vous devez vous pardonner. Et vous êtes toujours marié. Pourquoi ? Ben parce que Dieu ne retire pas son amour, et pardonne, et attend. Et si vous accomplissez parfaitement l'Évangile, eh bien, vous reprendrez la vie commune. Et moi, quand, voyez-vous, je l'ai vécu au confessionnal, hein, quand vous avez une femme qui a été abandonnée trois fois, deux fois, elle est partie avec, elle a su qu'elle avait trompé, avec une relation plus ou moins continue, il est revenu penaud, elle lui a pardonné. Il est reparti avec une autre femme, il est revenu penaud, et elle lui a pardonné. Une femme bafouée, une femme digne, une femme avec un pardon héroïque. Et lui, bon, il est un peu malade, quoi. Enfin, il y a un problème, mais c'est 20 ans de mariage, hein, donc on ne va pas penser à la nullité. Hein. Par contre, attention, hein, si on vous trompe au bout d'un an de mariage, avec l'un, puis la troisième année avec l'autre, là, si vous voulez pas que ça continue, revenez voir les prêtres, dites-leur, peut-être que sa notion de la fidélité n'était pas tout à fait intègre, est-ce que vous pourriez déclarer nul mon mariage, que j'arrête de souffrir. Mais là, vous voyez, pas de nullité possible, le bonhomme est tout simplement faible, il demande pardon. Et là, la personne, en très très émue, dit « Mon père, est-ce que je pourrais pardonner une troisième fois s'il me trahit une troisième fois ?» Alors je lui dis « Mais en soi, vous pouvez vous séparer si vous trahissez une troisième fois. » Mais c'est vrai que, à un moment donné, peut-être qu'il sera à sa vie et que vous serez heureux de vivre ensemble. Après avoir pardonné. Moi, je connais une femme, elle s'est aperçue que son mari était homosexuel. Il partait, il vagabondait. Mais à l'époque, il n'était pas question de divorcer, pas question de nullité de mariage, c'était un déshonneur. On aurait déclaré son mariage nul facilement, puisqu'il avait un trouble sexuel. Elle a porté sa croix. À un moment donné, il est devenu vieux, donc il ne pouvait plus beaucoup vagabonder. Il a eu un cancer. Elle l'a soigné pendant 5 ans. Elle a fait venir le prêtre. Il s'est confessé et il est mort. Ils sont toujours restés ensemble. Vous me direz, c'est con. Elle aurait pu divorcer, obtenir la nullité de son mariage. Alors moi, justement, je ne vous demande pas ça. Mais je vous donne une idée du passé pour que vous viviez le présent. Et le présent, c'est un amour et une bonté mutuelle très fine et qui dépassera la passion amoureuse. Parce que quand vous aurez 40 ans, 50 ans, il faudra redécouvrir et toujours que donner sa confiance, même si on est déçu par telle colère, machin, refus, dépasser, pour toujours préserver le couple. Et si vous avez des enfants, obligation supplémentaire. Mais, vous voyez, je vous ai fait cette fresque d'histoire sainte, un peu maladroite, pour vous dire que depuis des siècles, Dieu nous court après. Et maintenant, je vous demande officiellement de voir le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, pour que vous voyez à quelle finesse d'amour la religion juive a abouti. Et pour que vous portez mieux ce que je vous dis.